Salutations, mes frères. Étant donné que ce message est enregistré après coup, j'ai l'avantage de pouvoir vous parler un peu de la fête de l'hiver. Je voulais me concentrer sur un événement particulier, à savoir les jeux qui ont eu lieu le samedi soir après le coucher du soleil. D'habitude, nous avons une forme de Pictionary et divers jeux plus courants, tous très excitants les années passées. Un véritable point culminant de la fête d'hiver. Cette année, quelque chose de différent s'est produit. Il s'agissait d'un jeu d'évasion, et c'est peut-être le jeu de groupe le plus stimulant auquel je n'ai jamais participé. Après y avoir participé, j'ai réfléchi à diverses façons de le caractériser et j'ai dit à l'un des organisateurs de l'événement, je me sens prêt pour quelque chose maintenant. Mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit à une autre personne que je ne savais pas si j'aimais cela ou si je n'aimais pas cela, mais que c'était un moment extraordinaire. Je parle du défi de la soirée. J'ai su que nous étions dans le pétrin lorsque, pendant les commentaires d'ouverture, on nous a dit que nous avions une heure ou que nous devions nous rendre à la chaufferie. Permettez-moi de revenir en arrière une seconde et d'expliquer quelque chose. On nous a dit que nous étions tous piégés dans un hôtel, Avalanche Shelcove, je crois que c'était le nom, peut-être que vous pourrez vivre par procuration à travers moi lors de la soirée d'hiver. Nous étions tous coincés à l'Avalanche Shelcove, le chauffage avait été coupé et les températures étaient, je crois, inférieures à zéro. Si nous ne trouvions pas une série d'indices pour atteindre la chaufferie, nous allions tous mourir de froid. Après quelques minutes de jeu, peut-être 10 ou 20 minutes, notre équipe se sentait très bien parce que nous avions trouvé 4 indices différents et nous avons convoqué l'un des arbitres qui est venu. Il s'agissait de Monsieur Wilfield, qui a examiné chacune des 4 réponses que nous avions trouvées, et aucune d'entre elles n'était correcte. Je savais que nous étions destinés à mourir de froid à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Il y a un lien avec mon message. Eh bien, pendant le match, pour rendre les choses encore plus désorientantes, et c'était un moment extraordinaire. Vous pouvez demander aux frères de vos congrégations locales qui ont participé. Pendant le jeu, nous entendions un fait aléatoire répété par le haut-parleur ici dans le trou principal. Un fait complètement aléatoire qui rendait les choses encore plus confuses. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous donner un fait complètement aléatoire au début de ce message. Après avoir visionné ou revu un peu le contenu social, un fait aléatoire, et je peux vous assurer que vous ne serez pas en mesure de comprendre comment il est lié au message jusqu'à ce que je le mentionne plus tard. Un tipi est une sorte de tente. Nous le savons tous. Il a la forme d'un cône. Ils étaient fabriqués par les Amérindiens des grandes plaines qui se déplaçaient fréquemment d'un endroit à l'autre. Si cela vous semble hors de propos, je peux vous assurer que l'indice que nous avons entendu sur les haut-parleurs vous a semblé encore plus hors de propos. Il y a un précédent, mes frères. Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre en suivant les bisons ou d'autres animaux que les Amérindiens chassaient. Ils correspondent au mode de vie migratoire des Amérindiens. Les tipis sont fabriqués à partir de longues perches et sont recouverts d'un matériau. Il y a longtemps, le matériau était de la peau d'animal ou de l'écorce d'arbre. Aujourd'hui, ils sont faits de tissu. Les tipis étaient montés en cercle, ce qui symbolisait la vie. Nous ne voulons rien savoir de cela, mais il s'agit d'une ancienne pratique amérindienne. Les tipis ne sont généralement plus utilisés comme maison à temps plein, mais ils sont encore utilisés pour des occasions spéciales. Ils étaient utilisés par les Lakta. Les Indiens des plaines peignaient et marquaient parfois leur tipi et y plaçaient des signes pour signaler le mal. Là encore, ce n'est pas nécessairement le genre de tipi dans lequel nous voudrions habiter. Il fabriquait généralement la couverture à partir d'une peau de bison tannée. Les tipis étaient dotés d'un rabat qui pouvait être ouvert et fermé selon les besoins pendant les mois d'été et d'hiver. Ils étaient généralement équipés d'un rabat pour les oreilles, ce qui n'a rien à voir. Cela n'a pas d'importance, vous verrez. La porte était orientée vers le soleil levant. Les tipis contenaient des peintures. J'ai trouvé cela intéressant. Et ce qui m'a le plus fasciné, c'est que ces faits proviennent du KIDSSARCH.com. Celui-ci provient d'une autre source et est assez bien connu. Les tipis pouvaient accueillir de 30 à 40 personnes. Il s'agissait donc de structures massives. 30 à 40 personnes pouvaient s'y installer confortablement. Maintenant que vous pensez au tipi, prenons un virage à gauche, très, très serré. Je peux vous assurer que vous allez perdre votre temps si vous méditez sur les tipis à ce stade. Attendez le lien, mes frères. Attendez-le. Un virage serré à gauche. Et parlons des cicatrices, des blessures. Nous en avons tous eu. Nous avons probablement échangé des histoires avec des amis proches, des frères, des membres de la famille. Oh, oui, j'ai eu cette blessure en faisant ceci, ou, oh, j'ai cette douleur à cause de ce qui s'est passé il y a 15 ans. J'ai un orteil qui pointe vers le nord. Un gros orteil. Je ne portais pas de chaussures de sport en jouant au volley-ball et je me le suis cassé. Je ne sais pas si je l'ai cassé à ce moment-là ou en testant son intégrité après que les médecins ont essayé de la réinitialiser en le testant trop rapidement. Mais j'ai appris après cette blessure à toujours porter des chaussures de sport. Vous ne me verrez pas en chaussures de tennis sur un terrain de volley-ball ou de basket-ball. La cicatrice m'a servi de leçon. La blessure m'a appris une leçon. J'ai un pouce qui est un pouce. Mon pouce gauche est plus petit que mon pouce droit. Je crois que je l'ai déjà mentionné dans un message. Quand j'étais enfant, j'ai tendu le bras et j'ai attrapé l'œil d'un poil, si j'ai bien compris. On a dû me couper un morceau de pouce. Depuis, je fais attention aux poils. Les blessures, la douleur et la souffrance permettent de tirer des leçons. Une fois, j'ai rencontré un chien très amical. J'ai joué à la balle avec lui plusieurs fois, mais c'était un pitbull. Et on m'avait, excusez-moi, mis en garde contre leur nature changeante. Mais je n'y avais pas vraiment prêté attention. Une fois, après avoir lancé la balle et que le chien l'ait ramenée, je l'avais dans ma main gauche et je m'apprêtais à la relancer, mais le chien s'est tout simplement jeté sur ma main. Et j'ai toutes ces petites cicatrices sur ma main gauche. J'ai appris à être plus prudent avec les chiens. Je ne dis rien que vous n'ayez vécu vous-même. Je suis sûr que vous avez vos propres histoires, les leçons physiques que nous avons tirées de la douleur. J'ai la nuque brisée. Je fais attention aux personnes avec lesquelles je monte en voiture. Aujourd'hui, heureusement, les frères sont de meilleurs conducteurs que certaines des personnes que j'avais l'habitude de fréquenter lorsque j'étais dans le monde. Je me souviens que la première fois que j'ai été assommé, j'étais dans un parc où l'on reconstitue certaines scènes anciennes, et il y avait une porcherie, mais elle était entourée d'une clôture de piquet qui empêchait de voir les cochons. Je suis un garçon de 7, 8 ou 9 ans. Je me suis donc dit que c'était facile. Je vais grimper à cet arbre et me glisser sur cette branche, et j'aurai une vue imprenable sur ces porcs. Je grimpe donc sans réfléchir à cet arbre et je sors sur une branche pourrie. Je regarde les cochons et la branche s'effondre sous moi. Je tombe. Je suis assommé sur le côté de la clôture et je tombe dans la fange des cochons. Je suis reconnaissant de ne pas avoir été mangé, car c'est ce qu'ils font. Un enfant de 7 ou 8 ans inconscient, Et vous pouvez voir ma taille maintenant. Je n'aurais pas été très grand. J'aurais pu être un bon casse-croûte pour les cochons. J'ai grimpé à beaucoup d'arbres depuis, mais je ne grimpe pas sur des branches pourries. J'ai retenu la leçon. Le fait est, frère, que la douleur physique nous enseigne des leçons physiques. Nous apprenons. La douleur met en marche le mécanisme d'apprentissage, comme l'a déjà dit M. Pack. Nous apprenons. Si vous cherchez la définition du mot « apprendre » dans le dictionnaire, il suffit de faire une recherche rapide sur Internet. Il s'agit d'acquérir des connaissances ou des compétences sur quelque chose en... Ce sont les éléments sur lesquels je veux me concentrer, acquérir des connaissances ou des compétences sur quelque chose par l'étude, l'expérience ou l'enseignement. Mémoriser. Prendre conscience de quelque chose par l'information ou l'observation. Nous allons nous concentrer sur un élément de ce concept dans quelques instants. Pour l'instant, concentrons-nous sur le fait que nous sommes un peuple dont la vie repose sur l'apprentissage. Actuellement, il y a une crise de l'apprentissage dans ce pays. Je parlais récemment à l'un de nos frères, un ministre en fait, qui m'a parlé d'un rapport qu'il avait lu. Il s'agissait peut-être d'un documentaire ou d'un reportage qu'il avait vu, où les institutions éducatives sont devenues si mauvaises dans ce pays, en Amérique, qu'elles peuvent donner à un étudiant un paragraphe, verbaliser un paragraphe d'information. Le professeur peut lire un paragraphe, coacher l'élève pendant qu'il le lit, et si je me souviens bien, il s'agissait d'élèves d'âge moyen. Avec un texte aussi simple, court et bref, et avec l'aide et les encouragements des enseignants, les élèves ne peuvent toujours pas expliquer ce qu'ils viennent d'entendre. Leur durée d'attention est si courte, leur cerveau est si abîmé, probablement par la technologie, probablement par la paresse, probablement parce qu'ils sont restés à la maison à cause de la pandémie. Leur cerveau est si peu développé, par rapport aux générations précédentes, qu'ils ne peuvent pas vous dire le sens d'un paragraphe immédiatement après l'avoir entendu et après y avoir été incité. C'est tout simplement choquant. Choquant. Comparez cela à mon père, par exemple, qui a suivi une scolarité de 8e année et dont l'anglais est la 2e langue. Je lui ai parlé au téléphone et il m'a récité un sonnet une fois. Je me suis dit, un sonnet shakespearien. Je pense qu'ils font, si je me souviens bien, maintenant je me raconte, je pense qu'ils font 40 vers. Je suis ce pentamètre. L'horreur revient, l'école d'anglais. Quoi qu'il en soit, il a récité un sonnet et j'ai dit, « Où as-tu appris cela, papa ?» Il m'a répondu, « Oh, j'ai appris cela à l'école. » Je suis resté bouche bée, car voilà quelqu'un qui n'est allé à l'école que jusqu'à la 8e année et qui peut réciter un poème entier dans une autre langue, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui. Je me retrouve dans les programmes éducatifs que j'ai suivis. Nous ne pouvions pas faire de telles choses, et encore moins les réciter combien de décennies plus tard. C'est incroyable. L'Amérique est en crise d'apprentissage. Je suis sûr que cela s'étend au monde entier, mais nous ne pouvons pas en être ainsi, mes frères. Vous et moi sommes ce que l'on appelle des apprenants permanents. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de l'apprentissage tout au long de la vie? Certains l'ont entendu. C'est assez explicite. Cet article provient d'un site de recherche d'emploi, Indeed. L'équipe éditoriale d'Indeed a rédigé cet article intitulé « What does it mean to be a lifelong learner ?» Je vais le citer brièvement. Dans l'idéal, l'apprentissage est un processus continu qui peut vous obliger à aller au-delà de votre éducation formelle. Les personnes qui embrassent l'apprentissage au-delà de la salle de classe sont appelées apprenants tout au long de la vie, car elles profitent de chaque occasion pour améliorer leurs compétences dans divers domaines. Comprendre les habitudes et les avantages de l'apprentissage tout au long de la vie peut vous aider à élargir votre base de connaissances, à modifier votre point de vue et à améliorer votre employabilité. Dans cet article, nous expliquons ce qu'est un apprenant tout au long de la vie, nous vous montrons les étapes à suivre pour inculquer l'apprentissage tout au long de la vie, nous discutons des avantages de l'apprentissage tout au long de la vie et nous passons en revue les habitudes typiques des apprenants tout au long de la vie. Je ne lirai pas tout cela, mais un autre sous-titre porte en fait le même titre que l'article, « Qu'est-ce que cela signifie d'être un apprenant tout au long de la vie ?» Un apprenant permanent est une personne qui continue à acquérir de nouvelles aptitudes et compétences longtemps après avoir terminé son éducation formelle. Quiconque a été dans l'Église de Dieu pendant un certain temps sait qu'il s'agit d'une éducation. Oui, nous sommes allés à l'école primaire. Certains ont poursuivi leurs études dans des collèges et des universités, mais l'éducation la plus importante que nous puissions jamais recevoir, les connaissances les plus lourdes que nous puissions jamais rencontrer sont enseignées dans l'Église de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre différentes matières, mais aussi de développer une ouverture d'esprit et un état d'esprit positif face au dynamisme du monde. Les personnes qui apprennent tout au long de leur vie sont toujours à la recherche de nouvelles façons d'approfondir leurs connaissances et leur compréhension. L'apprentissage tout au long de la vie n'est pas nécessairement associé à votre carrière. De nombreuses apprenants tout au long de la vie s'inscrivent à des cours pour s'informer sur des sujets ou des domaines qui les intéressent personnellement. Si les diplômes peuvent vous aider à faire progresser votre carrière, la curiosité et une attitude proactive peuvent créer de nouvelles opportunités. Frères et sœurs, vous et moi sommes les ultimes apprenants permanents. Le peuple de Dieu est le summum de l'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes ici pour apprendre à être Dieu. Nous sommes ici pour apprendre à dépasser le physique et à aller vers le spirituel. C'est une éducation. Ce n'est pas une éducation que l'on peut payer. On ne peut pas aller dans les universités les plus sophistiquées du monde pour apprendre. Dieu a dû vous sélectionner pour cette opportunité d'apprentissage tout au long de la vie. Encore une fois, c'est par l'apprentissage que nous devenons semblables à Dieu. Pour en revenir à la définition, l'apprentissage se fait par l'étude, l'expérience ou l'enseignement, et implique de mémoriser des choses, d'observer. Oui, nous étudions. Nous étudions lorsque nous sommes curieux de quelque chose. Nous étudions pour nous rapprocher de Dieu, nous étudions peut-être particulièrement lorsque nous avons un problème que nous surmontons et que nous voulons comprendre à partir des Écritures. Oui, on nous enseigne une autre facette de cette définition. Chaque semaine, nous assistons au service du sabbat et nous écoutons les ministres de Dieu. Nous lisons le magazine de Pilar, nous lisons la vraie vérité. Nous assistons aux offices des jours saints à certains moments clés de l'année. On nous enseigne un autre élément de l'apprentissage. Nous mémorisons des choses. Il y a certaines écritures à mémoriser, comme on les appelle, que nous pouvons mettre en mémoire. Certaines sont personnelles, d'autres peuvent vous être plus utiles que d'autres. Elles sont toutes utiles, bien sûr. L'esprit rappelle aussi toute chose. Il y a un aspect mémoire dans notre apprentissage, mais ce sur quoi nous allons nous concentrer aujourd'hui, c'est l'apprentissage par l'expérience, l'apprentissage par l'expérience. C'est sur cette facette de la définition que nous allons finalement nous concentrer. L'apprentissage par l'expérience. Apprenons-nous de ce que nous vivons? Vous savez, je sais qu'il ne faut pas aller au volley-ball avec des chaussures inappropriées. C'est vrai. C'est très mineur dans le grand ordre des choses, mais j'ai appris de quelque chose que j'ai vécu. Apprenons-nous, frères, de ce que nous vivons. Une citation célèbre me vient à l'esprit. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Vous savez, Manassé est en crise en ce moment. L'Amérique est en crise. Manassé signifie oublieux. La nation où Dieu a placé son œuvre est par nature oublieuse. Nous avons oublié d'où viennent nos bénédictions, et regardez les problèmes que nous rencontrons, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais dans toutes les facettes de la société. Nous oublions que la raison pour laquelle les personnes âgées sont si sages, c'est qu'elles ont vécu beaucoup de choses. Passez au livre des Proverbes, 16. Proverbe 16. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves et en ont tiré des leçons. Proverbe 16 et verset 31. La tête fatiguée est une couronne de gloire si elle est trouvée dans la voie de la justice, si elle a glané les leçons de la vie. Vous savez, il y a des personnes âgées dans la société qui sont meilleures que les jeunes, même si elles ne sont pas dans l'Église. Parce qu'ils ont appris certaines leçons. Ils ont une certaine morale. Ils ont certaines normes. Elles ont une certaine droiture, pas le genre de droiture qui n'est disponible qu'au contact de Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais si une personne âgée n'apprend pas, ne marche pas dans la voie de la justice, les choses sont très différentes. Ecclésiaste 4, 13. Peu importe leur réussite, s'ils n'ont pas appris de la vie, ils tombent dans cette catégorie. Ecclésiaste 4 et verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne veut plus être réprimandé. Vous voyez, il vaut mieux être un enfant qui a une attitude axée sur l'apprentissage, la croissance et le développement que quelqu'un qui a beaucoup de succès selon les normes mondiales, qu'il a été pendant longtemps, mais qui n'a plus l'attitude nécessaire pour apprendre. C'est un contraste incroyable. Vous savez, les personnes âgées, avant le déluge ou même à l'époque du déluge, ont eu, dans certains cas, des siècles pour développer la droiture ou devenir méchantes. Ils ont appris d'une manière ou d'une autre. Et à la fin de leur très longue vie, ils se trouvaient dans l'une des deux catégories suivantes, très méchant ou très juste. Très méchant ou très juste. Certains des premiers serviteurs de Dieu. Voici l'extrême de l'absence d'apprentissage. La pire extrémité du spectre. Deuxième Pierre 2. Deuxième Pierre 2 et verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, comme il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront en privé des hérésies condamnables, reniant même le Seigneur qui les a achetés, et qui attireront sur eux une ruine rapide. Beaucoup suivront leur voie pernicieuse, apprenant des mauvaises personnes, à cause desquelles la voie de la vérité sera trahie, et, par cupidité, ils se moqueront de vous par de fausses paroles, eux dont le jugement ne tarde pas à venir, et dont la damnation ne sommeille pas. En effet, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités en enfer et les a enchaînés dans les ténèbres pour les réserver au jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, la huitième personne, un prédicateur de la justice, en faisant tomber le déluge sur le monde des impies, il n'a pas non plus épargné le monde d'aujourd'hui. Prenons une brève parenthèse et mentionnons que Noé était âgé de 500 ans, selon la Genèse 5, lorsqu'il a engendré ses fils. Pensez donc au temps qu'il avait vécu avant d'engendrer les trois fils qui étaient présents avec lui dans l'arche. Donc, s'il était un prédicateur de la justice, combien de temps a-t-il dû apprendre son métier, si je peux m'exprimer ainsi? Verset 6. Il réduisit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe. Il les condamna par un renversement. Dieu le fit, pour qu'elles servent d'exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Il les a donnés en exemple pour donner une leçon afin que nous puissions apprendre d'eux. afin que nous puissions éviter la voie de l'impiété qui conduit à ce chemin et délivrer juste l'eau, vexée par les conversations dégoûtantes des méchants. En effet, ce juste qui habitait au milieu d'eux, qui les voyait et les entendait, était chaque jour tourmenté dans son âme de juste par leurs actions illicites. Vous vous sentez probablement comme moi, mes frères. Je sais que c'est le cas. Il est difficile de regarder les nouvelles aujourd'hui. Parfois, il vaut mieux lire le titre et passer à autre chose s'il s'agit de choses particulièrement dégoûtantes ou odieuses, des choses que nous ne voulons même pas lire. Nous en arrivons à un point où, si les choses sont si évidentes que nous nous sentons probablement comme l'eau, que nous ne vivons pas dans des quartiers aussi proches de ces gens meurtriers qu'ils l'étaient de la même manière, nous sommes contrariés par la conduite immonde des méchants. Nous ne pouvons pas attendre que les choses changent. Je ne les attaque pas. Ils ont besoin d'aide. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer les pieux, ceux qui sont prêts à apprendre, par opposition aux impies. Plutôt, ceux qui ne voulaient pas apprendre, dans 2 Pierre 2 ici, des tentations et de réserver les injustes pour le jour du jugement afin qu'ils soient punis, mais surtout ceux qui marchent selon la chair et la convoitise de l'impureté et qui méprisent le gouvernement. Ils sont présomptueux, pleins de volonté. Ils ne craignaient pas de dire du mal des dignités. Tandis que les anges, plus puissants, ne les accusent pas devant le Seigneur. Mais eux, comme des bêtes naturelles destinées à être prises et détruites, parlent mal de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils périront dans leur propre corruption, et recevront le salaire de l'injustice, comme ceux qui se plaisent à se livrer à l'ivrognerie pendant le jour. Leurs tâches, leurs défauts, etc. Verset 15. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés. Ils avaient la bonne voie. Ils avaient la possibilité d'apprendre, mais ils s'en sont détournés, suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui aimait le salaire de l'injustice, mais qui a été réprimandé, et ainsi de suite. Verset 20. Car si, après avoir échappé aux pollutions du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, par la connaissance qui n'est disponible que dans l'Église de Dieu, ils ont appris tout ce qu'ils ont fait, si, après avoir échappé aux pollutions du monde par cette précieuse connaissance, ils y sont de nouveau entraînés et vaincus. Ils ne tombent pas, ne se relèvent pas, ne se battent pas, ne vont pas de l'avant. Ils tombent. Ils s'y empêtrent et en sortent vainqueurs. Ils laissent le monde les engloutir. Le diable les engloutit. La fin est pire pour eux que le début. Car il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin de la justice, ne pas apprendre ce que nous avons appris. La barre est haute, la responsabilité est grande pour ce qui nous a été donné, mes frères. Puis, après l'avoir connu, ils se sont détournés du saint commandement qui leur avait été délivré. Ils ont refusé d'apprendre. Ils ne voulaient pas apprendre la voix de Dieu tout au long de leur vie, mais il leur est arrivé ce que dit le proverbe, « Le chien retourne à son vomissement, et la truie qui a été lavée se vautre dans la fange. » Ces personnes n'ont pas appris par l'expérience. Qu'est-ce qui leur est arrivé en particulier? Pierre a parlé d'un véritable proverbe qui s'est produit, et ce proverbe se trouve dans le chapitre 26 des Proverbes. Qu'est-il arrivé à ces personnes qui refusaient d'apprendre? Proverbes, chapitre 26 et verset 10. Le grand Dieu qui a tout formé récompense les insensés et les transgresseurs, comme le chien revient à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. L'insensé désigne ici une personne stupide ou idiote. Ceux qui s'éloignent du mode de vie de Dieu, ceux qui ne veulent pas entendre ce que Dieu a enseigné, ceux qui ne veulent pas recevoir ce que Dieu a leur donné sont stupides et idiots selon Dieu. Il récompense l'insensé et il récompense le transgresseur. Pensez à l'école. Cette personne est stupide. Elle n'a pas de bonnes notes. Eh bien, nous avons tous des niveaux d'intelligence différents, et ce n'est pas notre intelligence physique qui intéresse Dieu. C'est notre intelligence spirituelle. Nous ne pouvons pas être des imbéciles spirituels. Nous n'avons pas besoin d'avoir un QI de génie pour prospérer à la manière de Dieu et grandir spirituellement. Nous ne pouvons pas être spirituellement stupides. Nous ne pouvons pas être spirituellement stupides. Nous ne pouvons pas être des imbéciles spirituels. Nous savons ce que Dieu attend de nous, et ce n'est pas facile, mais c'est simple. Dieu ne complique pas les choses. Il veut simplement que nous l'écoutions, que nous grandissions, que nous apprenions à lui ressembler. Ce sont des gens qui, en fin de compte, refusent de faire partie du plan de Dieu. Plus précisément, ils ont rejeté une formule très précise que Paul révèle dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, qui est au cœur même de l'apprentissage par l'expérience, au cœur même de notre existence. Il rejette une formule très simple et très puissante. Romains chapitre 5. Romains 5. Et cette formule, mes frères, a tout à voir avec les tipis. Ici, le mystère va être dissipé. Romains, chapitre 5. C'est pourquoi, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, verset 1. Deuxièmement, c'est par lui aussi que nous avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons et qui nous permet de nous réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. La douleur, qu'il s'agisse de se casser un orteil ou d'une autre forme de douleur. Il s'agit d'exemples physiques, mais nous parlons bien sûr de spiritualité. La tribulation fait naître la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Il y a là un cycle. Et l'espérance ne fait pas rougir, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il y a un cycle, tribulation, patience, expérience, espérance. Tribulation, patience, expérience, espoir, TPEH. C'est ainsi que je choisis de m'en souvenir. Tipeee. Tout à coup, ces maisons coniques ont plus de sens. C'est juste une façon de graver dans notre cerveau, Tipeee. TPEH. J'affirme, mes frères, que si nous pouvons garder ce cycle TPEH au premier plan de notre esprit, peu importe ce que nous vivons, cela nous aidera à donner un sens à ce qui peut parfois être une vie très difficile. Cela nous aidera à donner un sens à ce que nous vivons. Il vous aidera à comprendre pourquoi nous devons apprendre des leçons difficiles par l'expérience. Ce cycle s'applique à tous les aspects de la vie. Pensez à un exemple comme aller à la salle de sport pour la première fois. C'est une expérience éprouvante. Vous entrez dans la salle et vous vous déplacez honteusement jusqu'à la barre en regardant à gauche et à droite et en espérant que personne ne vous voit. C'est une tribulation, mais vous continuez, vous vous accrochez, vous êtes patient et vous finissez par ajouter un peu plus de poids, quelques 5. Puis peut-être quelques 10 et, si vous êtes vraiment ambitieux, quelques 25. Vous construisez à partir de là. Vous êtes patient. Le T est pris en compte, le P est pris en compte. Ensuite, on acquiert de l'expérience. Vous commencez à prendre votre rythme. On commence à savoir ce qu'on y fait et on se sent mieux. Au fur et à mesure que l'on acquiert de l'expérience, on commence à avoir de l'espoir. Je peux y arriver. Je peux me mettre en forme. TPEH, tribulation, patience, expérience et espoir. À la fin de ce cycle, beaucoup de choses se sont passées depuis cette première visite honteuse à la salle de sport, si l'on peut utiliser l'analogie. Si nous pouvons nous souvenir de ce cycle, frères, cela peut vraiment nous aider à comprendre pourquoi je passe par ce facteur. Peu importe ce que nous vivons. La tribulation est le premier élément de ce cycle, et elle signifie simplement pression, en grec, pression. Nous vivons des vies qui ont beaucoup à voir avec la pression. Nous sommes forgés. Nous sommes modelés d'une certaine manière. Le seul moyen d'y parvenir est de passer par ce premier élément du cycle. La tribulation. On peut connaître la tribulation au travail. Vous pouvez en faire l'expérience à la maison, Vous pouvez en faire l'expérience dans votre esprit. Nous endurons constamment des tribulations. Hébreux, chapitre 10. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Nous ne pouvons pas la fuir. Nous verrons que nous devons simplement être patients. Hébreux, chapitre 10, Hébreux, chapitre 10. Hébreux 10, et verset 32. L'appel au souvenir, car nous avons connu cette tribulation depuis le début de notre vocation. Les premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez enduré un grand combat d'affliction, en partie pendant que vous étiez transformé en objet de contemplation, tant par les reproches que par les afflictions. Non seulement nous avons subi cette pression, mais les gens nous ont regardés comme des fous à cause de cette pression. C'est en partie parce que vous êtes devenus les compagnons de ceux qui ont été utilisés de la sorte. D'autres le vivaient aussi, car la tribulation est commune à la vie chrétienne. La pression est au cœur même de la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes en train de nous forger, de nous modeler en quelque chose. Vous savez, quand un forgeron forge une tête de hache, il la martèle à plusieurs reprises. Il la chauffe et la martèle. La pression exercée sur l'acier est intense et l'outil devient beaucoup plus solide. Dieu a développé ce principe physique, et il s'applique également au domaine spirituel. Il veut nous renforcer par la pression afin que nous ne finissions pas par nous briser. 1 Corinthiens 10, la tribulation est absolument nécessaire. 1 Corinthiens, verset 1. De plus, frères, je ne voudrais pas que vous ignoriez que tous nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer, qu'ils ont tous été baptisés par Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé la même viande spirituelle et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à ce rocher spirituel qui les suivait, et que ce rocher était Christ. Dieu n'a pas été satisfait de beaucoup d'entre eux, car ils ont été renversés dans le désert. Or, ces choses nous ont servi d'exemple, afin que nous ne recherchions pas les mauvaises choses comme ils les recherchaient. Ils nous ont été donnés pour que nous apprenions à ne pas être idolâtres, comme l'étaient quelques-uns d'entre eux. Comme il est écrit, le peuple s'asseyait pour manger et boire, et il se levait pour jouer. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme l'ont fait quelques-uns d'entre eux, qui sont tombés en un jour au nombre de 23 000. Je ne dis pas que face au péché, nous devons faire preuve de patience. La TPEH, il faut peut-être de la patience pour surmonter quelque chose, mais nous devons fuir le péché comme cela est enseigné ici. Ne tentons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont tenté et ont été détruits par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'entre eux ont murmuré et ont été détruits par le destructeur. Toutes ces choses ont été données pour que nous apprenions. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'échantillon, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui voyons venir les fins du monde. C'est pourquoi, que celui qui réfléchit prenne garde de ne pas tomber. À travers le processus de tribulation, à travers le processus de forgeage, Dieu veut exercer juste assez de pression pour que nous grandissions, mais pas trop pour que nous nous brisions. Il surveille cela de près. Verset 13. Il n'y a pour vous d'autre tentation que celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais qui, avec la tentation, préparera aussi le moyen d'y échapper, afin que vous puissiez la supporter. La pression n'est jamais si forte que nous ne puissions la supporter. La pression est conçue pour nous fortifier en fin de compte. C'est pourquoi Dieu a le doigt sur le cadran, si je peux m'exprimer ainsi. Il contrôle très soigneusement la pression que vous et moi recevons, mes frères. Ce n'est pas par hasard que nous tombons dans une épreuve. Y a-t-il des choses que nous nous imposons à nous-mêmes? Oui, mais nous grandissons et nous les surmontons. Nous devons nous tourner vers Dieu quand les choses deviennent difficiles. C'est pour cela que la tribulation arrive. Nous devons nous tourner vers lui. C'est le but de la pression. Deutéronome 4. Nous l'avons vu récemment. Deutéronome chapitre 4. Regardons-le à travers cette lentille. Deutéronome 4, verset 26. J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Vous allez bientôt disparaître du pays dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, mais vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les nations, et vous serez laissés au nombre des païens. Le Seigneur vous conduira et vous servirez Dieu, œuvre de la main de l'homme, pierre de bois, qui ne voit pas, n'entend pas, ne mange pas et ne sent pas. Mais si, de là, vous cherchez le Seigneur votre Dieu, vous le trouverez dans cette tribulation, dans cette pression. Si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme, quand vous êtes dans la tribulation, et que toutes ces choses viennent sur vous, même dans les derniers jours, si vous vous tournez vers Dieu. Ce n'est pas ce à quoi nous aspirons. Nous aspirons à prendre de la tribulation, à prendre de la pression dans cette vie afin de pouvoir aider ces gens. Si vous vous tournez vers le Seigneur, votre Dieu, et si vous obéissez à sa voix. C'est le but, dans la tribulation, dans la pression, tournez-vous vers Dieu et soyez obéissants à sa voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu de miséricorde, il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, et il n'oubliera pas l'alliance de ton Père, qu'il leur a jurée. Nous sommes comme de petits enfants, frères, qui trébuchent. Je ne suis pas parent, mais je peux imaginer à quel point il est difficile pour un parent de lâcher son enfant et de le laisser tomber, se cogner la tête, se cogner contre le mur. Et ainsi de suite. Mais imaginez un enfant qui n'est jamais autorisé à le faire. En grandissant, il devient très faible. Il est incapable de relever les défis de la vie. Il grandit en étant incapable de faire face à la douleur. Dieu n'aime pas nous voir nous cogner spirituellement contre un mur ou nous écorcher le genou, mais il laisse faire. Il nous permet d'expérimenter cette pression parce qu'il sait que nous en avons besoin. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous devrions vivre. Nous devons y passer. Acte chapitre 14, acte 14. C'est essentiel. C'est crucial. Acte 14, 21. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et l'avoir enseignée à un grand nombre de personnes, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Et qu'il nous faut, à travers beaucoup de tribulations, beaucoup de pressions, entrer dans le royaume de Dieu, parce que sans ces pressions, nous ne pourrions pas recevoir la croissance de caractère nécessaire pour être Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Après les avoir établis anciens dans chaque église et avoir prié avec jeûne, ils les recommandèrent au Seigneur, auquel ils croyaient, mais il faut que nous entrions dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations, écrit Paul. Nous passons par beaucoup de choses. 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2, nous traversons beaucoup de choses, mes frères. Que vous soyez nouveau dans l'Église et que vous ayez dû endurer ce grand combat d'affliction, tout récemment pour sortir du monde, ou que vous soyez ici depuis longtemps, et que vous voyiez des barrages et des vagues de différentes sortes de pressions, ou peut-être d'anciennes pressions qui refont surface, certaines choses sont tout simplement inhérentes à la vie. Peu importe que vous soyez dans l'Église de Dieu ou non, vous recevrez des pressions dans cette vie, c'est juste la façon dont vous les gérez. Utilisons-nous les outils dont nous disposons pour y faire face. 1 Thessaloniciens 2, verset 9, car vous vous souvenez, frères, de notre travail et de notre peine. Le travail et la peine, ce n'est pas une partie de plaisir. D'avoir travaillé nuit et jour pour ne pas être à la charge de l'un d'entre vous. Nous vous avons aussi prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de la sainteté, de la justice et de l'irréprochabilité avec lesquelles nous nous sommes conduits au milieu de vous qui croyez. Malgré nos pressions, malgré nos tribulations. Vous savez que nous avons exhorté, consolé et recommandé à chacun de vous, comme un père à ses enfants, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, que vous avez entendu de nous, vous l'avez reçue, non comme une parole d'homme, mais comme la vérité, la parole de Dieu, qui agit efficacement en vous qui croyez. Si nous sommes prêts à l'apprendre, effectivement, les paroles de Dieu nous transforment, elles travaillent en nous et nous transforment lorsque nous entreprenons le processus d'apprentissage tout au long de la vie. Car vous, frères, vous êtes devenus disciples de l'Église de Dieu qui, en Judée, est dans Christ Jésus. Car vous aussi, vous avez souffert comme vos compatriotes. Vous avez subi vos propres pressions, dit Paul. Nous n'appelons peut-être plus nos collègues de travail ou nos voisins des compatriotes, mais c'est pourtant ce qu'ils sont. Des associés qui ne comprennent pas de quoi nous faisons partie. Il en va de même pour les Juifs, qui ont tué le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu et qui sont contraires à tous les hommes. Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Heureusement, nous n'en faisons pas l'expérience à ce point, mais regardez certaines des pressions que les frères ont subies dans le passé. Car la colère est venue sur eux jusqu'à l'extrême, tandis que nous, frères, qui avons été éloignés de vous pour un peu de temps, en présence, mais non de cœur, nous nous sommes efforcés, avec un grand désir, de voir votre visage. C'est pourquoi nous aurions voulu venir à vous, moi, Paul, une fois et une autre, mais Satan nous en a empêchés. Une autre pression. Car ce qui est notre espérance, notre joie, notre couronne d'allégresse, ce n'est pas même toi, en présence du Seigneur Jésus qui vient, car c'est toi qui es notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu et compagnon d'œuvre dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous réconforter dans la foi, afin que personne ne soit ébranlé par ces tribulations. Ne vous laissez pas ébranler par les pressions, dit-il. Les pressions qui s'exercent sur nous ou sur vous, les tribulations qui s'exercent sur nous, ou les tribulations qui s'exercent sur vous pour vous-même, sachez que nous sommes désignés pour cela. Vous savez, ce n'est pas seulement que nous vivons ces choses, nous sommes désignés pour les vivre, disait Paul. En effet, lorsque nous étions avec vous, nous vous avions annoncé que nous aurions à souffrir des tribulations, comme cela est arrivé, et vous le savez. Il y a un certain réconfort à savoir que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un dessein. C'est un dessein. Pourquoi sommes-nous destinés à cela? Pourquoi sommes-nous désignés pour cela? À cause de ce qu'il produit. Jacques 1. Nous sommes destinés à ces tribulations à cause du deuxième élément du cycle TP, le cycle TPEH. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, rencontrez la joie. Jacques a écrit. Lorsque vous tombez en diverses tentations, en diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Tout ce que nous traversons est censé faire naître en nous la patience. Paul a dit que la tribulation engendre la patience. Voici un autre apôtre qui dit que l'épreuve de notre foi est censée faire naître la patience. Ce cycle est très clair et très facile à comprendre. Lorsque nous traversons une épreuve, nous devrions nous dire « Dieu essaie de m'enseigner quelque chose. Je suis censé faire preuve de patience et comprendre ce qui se passe. » Nous y reviendrons dans une seconde. Patience, mais que la patience, verset 4, accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et entiers, ne manquant de rien, et le commandement demande de la sagesse. La patience signifie simplement une endurance joyeuse ou pleine d'espoir. Il est difficile d'être joyeux lorsque nous sommes sous pression, mais nous pouvons au moins avoir de l'espoir. S'efforcer d'être joyeux, en connaissant la fin de l'épreuve. L'endurance joyeuse ou pleine d'espoir, en sachant que Dieu contrôle la situation. Savoir que Dieu va nous aider à surmonter ce que nous vivons. Savoir qu'en fin de compte, c'est lui qui a le contrôle, savoir qu'il fait tout cela pour notre bien, savoir qu'il n'aime probablement pas nous voir. Il n'aime certainement pas nous voir souffrir, mais il est prêt à prendre le temps de construire son caractère en nous. Cette patience face à ce que nous vivons implique de se rapprocher dans la prière. Romains 12, 9. Romains, chapitre 12. Verset 9. Que l'amour soit sans dissimulation, que l'on ait en horreur ce qui est mauvais, que l'on s'attache à ce qui est bon. Attachez-vous à ce qui est bon. J'aime tous ces commandements simples. Nous compliquons parfois les choses à l'excès, mais voici comment Paul a écrit aux Romains, haïssez le mal, attachez-vous à ce qui est bon. Haïssez le mal, attachez-vous au bien. Aimez les gens, soyez bienveillants les uns envers les autres, ayez de l'amour fraternel et de l'honneur les uns pour les autres. Des instructions simples qui peuvent sauver nos vies éternelles. 11e verset, pas de paresse et de ferveur en esprit, servant le Seigneur, se réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation. Poursuivre instantanément la prière. L'une des clés pour être patient dans la tribulation est de se rapprocher constamment de Dieu, de lui demander constamment de l'aide alors que nous endurons ce que nous traversons, en continuant à prier instantanément. La patience. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà prié, Père, peux-tu, s'il te plaît, faire en sorte que cette épreuve se termine tout de suite ? Une forme ou une autre de cette prière. La dernière que j'ai pu gérer, s'il te plaît, mets fin à cette épreuve tout de suite. Invariablement, cela ne se termine pas comme cela. S'il s'agit d'une question de droit, si vous apprenez quelque chose, cela peut se terminer rapidement, mais si c'est juste « Oh, je n'aime pas cela, s'il te plaît, laisse-moi passer cela. » Ça ne marche pas vraiment comme cela. Cela a peut-être marché pour certains d'entre vous, mais pas pour moi. Non, nous devons faire preuve de patience. Nous rapprocher constamment de Dieu, voir constamment ce qu'il a peut-être à nous apprendre. Romains 15 avec quelques chapitres. Verset 4. Tout ce qui a été écrit avant le temps a été écrit pour notre instruction. Elles ont été écrites pour nous enseigner, afin que, par la patience et le réconfort des Écritures, Nous ayons l'espérance. La patience à travers la tribulation doit aboutir à l'espérance. Repensez au cycle. Paul met ici une étape dont il a parlé plus tôt dans le chapitre 5, l'étape de l'expérience, mais la patience à travers la tribulation aboutit finalement à l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Christ Jésus. Endurez. C'est ce qu'il dit. Avec joie, avec patience, avec espoir, endurez. Afin que, d'un même esprit et d'une même bouche, vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et que vous vous receviez les uns les autres, comme Christ nous a reçus, pour la gloire de Dieu. Supporter patiemment la tribulation est la seule façon, frères, de produire du fruit. C'est en partie pour cela que nous nous glorifions de la tribulation. Nous nous référons au chapitre 8 de Luc. Luc 8, expliquant la parabole du semeur et de la semence, verset 11. La parabole est la suivante, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le bord du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie et n'ont pas de racines, ils n'exercent pas la patience dans la tribulation, ils croient pendant un certain temps et, au moment de la tentation, ils tombent. Ils ne peuvent pas s'accrocher, ils ne peuvent pas exercer la patience dans les épreuves. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu, s'avancent et sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de cette vie, et ne portent pas de fruits à la perfection. Le processus de croissance ne se produit pas en eux, mais c'est sur un bon terrain que se trouvent ceux qui ont un cœur honnête et bon, qui ont entendu la parole, qui la gardent et qui portent du fruit avec patience. Quiconque a fait un peu de jardinage sait que le fruit ne vient pas sans la patience. Il est difficile d'attendre le fruit. Des choses peuvent endommager la plante. La plante doit être soignée, mais si elle est soignée avec patience, cultivée avec patience, le fruit est finalement le résultat. Nous ne pouvons pas nous contenter de donner un coup de langue à la patience et de lui faire une promesse. Il ne s'agit pas simplement de dire « Oh, exercez votre patience aujourd'hui et l'épreuve sera terminée. » Non. 2 Corinthiens 6. Ce cycle est au cœur même de ce que signifie être chrétien. 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 4. En tout, nous nous considérons comme des ministres de Dieu, avec beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les nécessités, dans les détresses, dans les meurtrissures, dans les prisons. Aucun d'entre nous n'est passé par ces choses au même degré que Paul, mais nous pouvons certainement apprendre d'eux dans les tumultes, dans les travaux. Il dit, « J'ai fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup d'endurance joyeuse ou pleine d'espoir à travers ces choses, parce qu'il savait ce qu'elles produiraient en fin de compte en lui. » Travail, veille, jeûne. Par la pureté de la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par le Saint-Esprit, par l'amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par l'armure de la justice à droite et à gauche, par l'honneur et le déshonneur, par la mauvaise et la bonne réputation. Peu importe ce qu'il a traversé, il a fait preuve de beaucoup de patience alors qu'il était inconnu et pourtant bien connu comme mourant, et voici que nous vivons comme chassés et non tués, comme affligés, mais toujours dans la joie. Oh ! Incroyablement difficile à appliquer, mais très simple. L'objectif est simple, triste, mais toujours joyeux, pauvre, mais qui enrichit beaucoup, parce que nous comprenons comme n'ayant rien, mais possédant tout. Ô, vous les Corinthiens, notre bouche vous est ouverte. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas redressé en nous, mais vous êtes redressé dans vos propres entrailles. Maintenant, en guise de récompense, je dis à mes enfants, élargissez-vous vous aussi. Apprenez la leçon, soyez patient dans ce que vous traversez. Hébreux 12. Il a parlé d'une seule voix à toutes les congrégations, Hébreux 12 et verset 1, où il prévoit que nous sommes aussi entourés d'une si grande nuée de témoins, ceux qui ont exercé la patience dans le passé pour nous enseigner, déposons tout poids, ce qui signifie la masse comme étant pliée ou gonflée par la charge. C'est un fardeau ou un obstacle. Mettons de côté tout ce qui nous gêne, et le péché, pas seulement les distractions, mais aussi le péché bien sûr, qui nous assaille si facilement, et courons avec patience la course qui nous est proposée. Endurons les épreuves. Verset 12. En fait, verset 8, « Mais si vous n'êtes pas châtiés, Dieu châtie tous les fils qu'il aime, alors nous sommes des bâtards et non des fils. De plus, nous avons eu des pères dans notre chair, qui nous ont corrigés, et nous les avons respectés. Ne devrions-nous pas plutôt être soumis aux pères des esprits et vivre ? En d'autres termes, il sait exactement ce qu'il fait lorsqu'il nous corrige, lorsqu'il nous soumet à des épreuves, lorsqu'il nous donne des choses pour nous aider à grandir. Car, en vérité, ils nous ont châtiés pendant quelques jours, au début de notre vie physique, selon leur bon plaisir, mais lui, pour notre prophète, afin que nous participions à sa sainteté, parce que Paul a compris que la pression de l'épreuve était nécessaire pour développer la patience, qui développe l'expérience. Nous y arrivons maintenant, ce qui donne de l'espoir. Pour l'instant, le châtiment ne semble pas être joyeux, mais pénible. Verset 11. Cependant, il produit ensuite un fruit paisible de justice pour ceux qui sont exercés par lui. Lorsque nous traversons une épreuve, frères, nous devrions poser patiemment des questions telles que « Que puis-je apprendre ici ? Pourquoi est-ce que je traverse cela ? Dieu veut-il que je voie quelque chose qui m'échappe ?» Si nous vivons toujours la même chose, Dieu teste-t-il simplement ma fermeté ? Ou peut-être que quelque chose m'échappe ? Des questions comme celle-ci. Que voulez-vous que je fasse, mon Père ? Peut-être qu'il s'agit simplement de faire preuve de plus de patience. Nous devons tirer profit de la tribulation en la prenant avec patience et en grandissant à partir d'elle, et c'est cette croissance qui produit l'expérience, TPEH, tribulation, patience, expérience menant à l'espérance. L'expérience. Deuxième Corinthiens, l'expérience signifie simplement le test, et donc la confiance, la confiance. Si vous avez un outil qui ne vous a jamais laissé tomber, c'est un outil fiable où se martoire encore un bon manche en noyer. Je sais qu'il me servira bien pour ce que je dois accomplir. La confiance, l'expérience, nous commençons à prendre de l'élan, à avoir le pied marin, à comprendre ce qu'est ce mode de vie, et que nous avons notre rôle à jouer, et que Dieu a le sien à jouer. Tant que nous faisons notre part, tout va bien. Nous devenons des chrétiens expérimentés. 2 Corinthiens 9, c'est dans ce but que j'ai écrit, afin de connaître vos preuves, votre expérience et votre confiance, et de savoir si vous êtes obéissants en toutes choses. Ils voulaient voir s'ils avaient des antécédents. Si quelqu'un a des antécédents de fiabilité, vous savez que vous pouvez lui donner quelque chose à faire. Dieu s'intéresse à notre confiance, à nos antécédents. Qu'avons-nous fait lorsque nous avons exercé notre patience dans la tribulation ? Nous ne l'avons peut-être pas encore fait, mais cela peut être un tournant. Au lieu de nous effondrer dans la tribulation, nous serons plus patients dans la tribulation. Nous acquérons plus d'expérience. Dans le chapitre 2 de Philippiens, C'est un processus désordonné. C'est imparfait. Ce qu'il veut, c'est que nous ne restions pas abattus. Nous n'abandonnons pas. Nous faisons preuve de patience. Nous grandissons, nous portons du fruit en nous rapprochant de lui à travers les difficultés. Au chapitre 2 de Philippiens, Paul, au verset 22, voulait que les Philippiens connaissent la preuve de Timothée. Au verset 19, la preuve en est qu'en tant que fils du Père, il m'a servi dans l'Évangile. Timothée va prendre soin de vous, mes frères, parce qu'il a fait ses preuves. Il a confiance en lui. Il a traversé beaucoup d'épreuves, mais il a fait preuve de patience et il a grandi. Vous connaissez ses preuves. Vous avez vu ses antécédents. Vous avez vu sa confiance. 1 Pierre 5. Cette expérience commence à se consolider au fur et à mesure que nous nous appuyons sur Dieu. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, patientant parce qu'il prend soin de vous. Soyez sobre, vigilant, car votre adversaire, le diable, est un lion rugissant, qui marche à la recherche de ce qu'il pourra dévorer, qui résiste fermement dans la foi, sachant que les mêmes afflictions s'accomplissent chez vos frères qui sont dans le monde, mais le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Christ Jésus. Après avoir souffert pendant un certain temps, vous vous perfectionnerez, vous vous établirez, vous vous renforcerez, vous vous établirez. Laissez vos antécédents parler d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers. Il arrive un moment où nous acquérons de l'expérience. Nous savons que nous pouvons faire face, un athlète expérimenté sait qu'il peut aller sur le terrain et performer. C'est un peu la même chose pour les chrétiens. Lorsque nous acquérons cette expérience, le dernier élément ici n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Il engendre une formidable espérance. Nous savons que nous n'allons pas dérailler. Non, nous ne céderons jamais, jamais à la tentation de « Oh, je pourrais abandonner ». Non, non, non. Nous combattons bec et ongle les attitudes qui pourraient nous conduire hors de l'Église de Dieu, mais l'expérience que nous développons en traversant ces choses, en grandissant à partir d'elles, engendre en nous une sorte d'espérance. Dans Romains 5, nous lisons qu'il s'agit de l'espérance de la gloire. Nous n'avons pas besoin d'y revenir. Nous y reviendrons à la fin. Mais nous parlons de l'espérance de la vie éternelle, l'expérience que nous avons produit l'espérance de la vie éternelle, produit une attitude positive. Tite chapitre 1. Tite 1. Il y a un immense espoir que vous et moi avons, mes frères, et qui grandira au fur et à mesure que nous vivrons selon le mode de vie de Dieu. Et elle grandira à mesure que nous vivrons le mode de vie de Dieu, que nous mènerons ces batailles, et que nous serons capables d'exercer une plus grande patience. Tite, chapitre 1 verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la reconnaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Dans l'espérance de la vie éternelle. C'est l'espérance que nous avons. Que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Chapitre 2. Car la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignons que, renonçant à l'impiété et aux convoitises de ce monde, nous devions vivre sobrement, avec droiture et piété dans le monde présent, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de purifier pour lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Verset 7. Chapitre 3, verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous soyons faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Nous avons le meilleur espoir que l'on puisse recevoir et que le monde ne comprend pas. Ils ont un certain concept de la vie éternelle, un certain concept de la vie après la mort, mais nous sommes les seuls à le comprendre, et nous sommes les seuls à pouvoir développer la patience et l'expérience qui nourrissent vraiment cet espoir. Oui, nous pouvons avoir de l'espoir dès le début du processus. Nous sommes toujours tournés vers l'avenir. C'est ce que dit le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 8. Quelle est l'importance de cette espérance que nous développons à travers ce cycle TPEH, TPEH? Quelle est son importance? Romains 8, verset 24. Nous sommes sauvés par l'espérance. Mais une espérance qu'on ne voit pas n'est pas une espérance, car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espère-t-il encore? C'est tellement important que nous sommes sauvés par elle. Au verset 35, Paul pose une question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation? Non, non. La tribulation est une bonne chose. La tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée, tout cela est bon. Comme il est écrit, à cause de vous, nous sommes tués tout le jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans Christ Jésus. Pourquoi? À cause du cycle. Cette tribulation ne nous séparera pas de Dieu. Cette tribulation dont il a parlé là-haut, fera naître en nous la patience, l'expérience et l'espérance, si nous la laissons faire. L'espérance est l'encre de l'âme, écrit Paul dans l'Épître aux Hébreux. C'est essentiel, et c'est quelque chose que nous pouvons construire à travers ce cycle. Revenez au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, si vous le voulez bien. Romains 5, quelques chapitres en arrière. Il y avait un autre élément ici, sur lequel nous ne nous attarderons pas, mais qui rend tout le cycle possible. C'est pourquoi il faut le mentionner. Romains 5 et verset 5. L'espérance que nous bâtissons ne fait pas honte. Romains 5, 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les personnes physiques peuvent surmonter les choses physiques, elles peuvent grandir dans leur vie et se forger un caractère physique. Mais vous et moi, mes frères, nous construisons un caractère qui durera pour l'éternité. C'est pourquoi nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu qui est le caractère parfait, qui est l'amour. Ce n'est que par sa puissance, par son caractère, par son esprit que nous pouvons utiliser efficacement le cycle TPEH, le cycle TPEH. Verset 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont entraînés. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous reviendrons sur ce point en terminant. Ils sont les fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude qui vous ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier, « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si nous souffrons avec lui. Voilà la clé. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés ensemble. Nous revenons donc au chapitre 5 pour conclure. J'aurais dû vous demander de garder votre doigt ici. Nous lirons les mêmes 5 versets que ceux par lesquels nous avons commencé. C'est pourquoi, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons, et nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations. Nous ne nous plaignons pas de nos tribulations. Nous nous en glorifions, non pas parce qu'elles nous font du bien. Ce n'est pas le cas. Mais parce que nous comprenons et respectons ce qu'elles produiront en nous. Nous savons. Nous savons mieux, je l'espère maintenant, que la tribulation fera travailler la patience si nous la laissons faire. La patience nous rendra plus expérimentés. Nous commencerons à comprendre les choses. Nous commencerons à acquérir une certaine confiance pieuse, sachant que Dieu fait quelque chose dans notre vie. Et nous ferons l'expérience de l'espoir. Je peux y arriver. Je peux faire partie de la famille de Dieu. Nous pouvons avoir cet espoir tout au long du processus, comme je l'ai dit. Mais elle grandira au fur et à mesure que nous acquérons de l'expérience. L'espérance ne fait pas honte, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions accomplir, pour que nous puissions accomplir, pour que nous puissions exécuter ce cycle. Pour que nous puissions vivre ce cycle au quotidien. Ce cycle TPEH, je l'appelle ainsi, simplement pour qu'on s'en souvienne. T. Tribulation. Patience, P. E. Expérience. H. Espérance. Le tout rendu possible par l'esprit. Frères et sœurs, gardons ce cycle de tribulation, de patience, d'expérience, d'espérance au premier plan de notre esprit pour donner un sens à cette vie. Cette vie que nous vivons maintenant, cette vie difficile que nous vivons maintenant, et entrons dans la vie éternelle.